Alors, mesdames, messieurs, les maires adjoints à la ville de Tours, mesdames, messieurs, les vice-présidents et vice-présidentes de la région Centre-Val de Loire, monsieur le député, mesdames, messieurs, les élus en vos grades et titres, mesdames, messieurs, les membres du collectif Vert en Parlement de Loire, monsieur le directeur de la Maison des sciences de l'homme Val de Loire, cher Xavier, chers collègues, chers étudiants et étudiantes, mesdames, messieurs. Alors, en tant que président de l'université de Tours, hein, je suis vraiment très heureux de vous accueillir en cette fin d'après-midi dans un des amphithéâtres de notre site des Tanneurs pour introduire la conférence intitulée « Réflexion cosmopolitique » que donnera dans quelques minutes le professeur émérite du Collège de France, Monsieur Philippe Descola. Alors, une conférence organisée donc par la MSH Val de Loire et les partenaires hein, du Parlement de Loire. Alors, je donnerai rapidement la parole à Xavier Rodier hein, pour présenter notre invité et introduire sa conférence. Mais je tenais néanmoins à dire quelques mots pour partager avec vous quelques-unes de mes interrogations. Alors, depuis quelques mois, j'anime au nom de France Université un groupe de travail, recherche et transition, un groupe de travail qui s'est donné pour ambition d'identifier les freins et leviers possibles au niveau de nos établissements pour accélérer les transformations nécessaires dans le domaine notamment de la recherche, hein, afin de contribuer aux enjeux de transition écologique et sociale. Alors, dans ce cadre, j'échangeais, c'était hier après-midi, avec Michel Eddy, qui est ancien PDG du CIRAD et qui est actuellement haut fonctionnaire au développement durable hein, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et lors de cet échange, c'était un peu un hasard, mais nous évoquions ensemble le dialogue publié samedi dernier par le journal Le Monde entre l'anthropologue Philippe Descola, que nous recevons aujourd'hui, et le philosophe Baptiste Morisot, un dialogue entre deux explorateurs engagés. Alors, dans cet entretien, notre invité d'aujourd'hui indiquait que la prudence et la modestie nous obligent à dire que nous sommes conscients d'un ébranlement, mais à la peine pour le définir et surtout incapable de savoir sûrement où il va nous mener. Alors, en tant que citoyen, je suis ébranlé, par exemple, hein, quand je lis que si ces 10 dernières années, les forêts françaises ont continué à s'étendre, dans le même temps, leur capacité à absorber du dioxyde de carbone aurait été divisée par deux. Mais je suis aussi ébranlé, comme président d'université, quand je vois les difficultés et bouleversements qui seront nécessaires pour faire d'une université comme la nôtre un acteur exemplaire en termes de transition écologique et sociale. Alors, suite à la publication du rapport Jean Jouzel et puis du plan climat-biodiversité du ministère, un des enjeux majeurs aujourd'hui pour nos universités est actuellement de transformer notre offre de formation pour intégrer les questions environnementales et sociales et en particulier de proposer un socle commun sur les enjeux de transition écologique pour un développement soutenable, là je reprends les termes de l'autre ministère, à tous les étudiants et étudiantes de premier cycle. Et comme je le disais juste avant, dans ce socle, et pour revenir à la conférence de ce soir, je suis convaincu que le questionnement de nos relations avec l'ensemble des vivants et des écosystèmes qui nous englobent est absolument essentiel, mais aussi qu'il sera essentiel que ce questionnement soit incarné, qu'un enseignement purement descendant ne sera pas pertinent. Et d'ailleurs, c'est ce que nous font comprendre les étudiants et étudiantes quand on discute avec eux. Alors, dans ce contexte, les travaux menés au sein du Parlement de Loire constituent un champ des possibles, particulièrement novateur, et pour explorer collectivement, justement, avec les étudiants et étudiantes, mais aussi avec nos personnels, ce que sont aujourd'hui nos relations avec le fleuve Loire et son bassin versant, comment nous pourrions transformer nos comportements, à la fois individuellement et collectivement. Alors, ce sont des engagements qu'on vient de prendre peu de temps avant cette conférence, en signant aujourd'hui le manifeste de Loire. Hein, le maire de Tours était également présent pour cette signature. Donc, un engagement assez fort pour passer, on va dire, des engagements à l'action. Alors, merci pour votre attention et merci encore au professeur Philippe Descola d'avoir accepté l'invitation de notre MSH Val de Loire. Et je vais maintenant laisser la parole au directeur de la MSH, Xavier Rodier, pour introduire notre invité.
Merci, Monsieur le Président. Cher Arnaud, cette entrée en matière nous place au centre des défis qui nous ébranlent, comme tu l'as si bien dit. Mesdames et messieurs les élus, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, c'est un immense plaisir de vous accueillir, Philippe Descola, en vous remerciant d'avoir accepté cette invitation de la Maison des sciences de l'Homme Val-de-Loire plaisir que je partage avec les membres du collectif Vers un Parlement de Loire, le Polo, la Rabouilleuse, la Mission Val-de-Loire, l'Université Populaire pour la Terre, Nat Explorer, l'IGERE et la MSH, bien entendu. La démarche initiée il y a 3 ans sur la base d'une fiction, et si on faisait un Parlement de Loire, conduit aujourd'hui le collectif à proposer ce manifeste qui vient de signer par vous-même d'ailleurs, d'être signé par vous-même et Arnaud, le maire de Tours, le député de Tours-Centre également, et qui préfigure l'écriture collective potentielle d'une déclaration de Loire à venir au moment d'une grande remontée qu'organise la Rabouilleuse au mois de septembre. C'est également un très grand honneur que d'introduire votre conférence en vous présentant. Faut-il rappeler que vous êtes anthropologue, professeur émérite au Collège de France, où vous avez été titulaire de la chaire d'anthropologie de la nature jusqu'en 2019, succédant à Claude Lévi-Strauss et Françoise Héritier à la direction du laboratoire d'anthropologie sociale. Également directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, vous avez reçu la médaille d'or du CNRS en 2012 pour l'ensemble de vos travaux sur le développement d'une anthropologie comparative des rapports entre humains et non-humains, qui a non seulement considérablement imprégné les sciences humaines et sociales, mais aussi les réflexions sur les enjeux écologiques actuels. Les racines de cette anthropologie sont dans vos travaux dès les années 70, pendant lesquelles, après des études de philosophie, vous êtes engagé dans une thèse en ethnologie pour laquelle vous avez passé 3 ans chez les Achuars. Dans votre thèse intitulée « La nature domestique, symbolisme et praxisme dans l'écologie des Achuars », que vous avez soutenue en 1983 et publiée en 1986, vous montrez comment ce que nous appelons « nature » en Occident n'existe pas pour les Achuars, qui attribuent des caractéristiques humaines aux plantes, aux animaux, aux météores, qui sont dotés d'une âme et d'une vie autonome, humains et non-humains, sont pensés et vécus comme un continuum. Cette thèse fondatrice de l'ensemble de vos travaux, qui vous a conduit à proposer de dépasser le dualisme opposant nature et culture en montrant que la nature est une construction sociale dans nos sociétés occidentales, vous en tirez la définition d'un modèle constitué de 4 ontologies que l'on peut qualifier de 4 manières d'appréhender le monde. Le naturalisme, dans lequel humains et non-humains appartiennent à des mondes séparés, les humains étant les seuls à être dotés d'une intériorité. L'animisme, où humains et non-humains ont une intériorité de même nature. Le totémisme, pour qui il existe par homologie des entités hybrides composées d'humains et de non-humains partageant des caractéristiques communes. L'analogisme, dans lequel humains et non-humains mènent des vies séparées, mais analogues. Vous avez publié de nombreux ouvrages issus de ces travaux, parmi lesquels, s'il ne fallait en citer qu'un, Par-delà nature et culture, en 2005, a fait date, vous y proposez une synthèse de ces ontologies de la nature. Plus récemment, vous avez travaillé sur l'image et publié les formes du visible, en 2021, dans lequel vous livrez une nouvelle synthèse axée sur la figuration dans les cultures humaines qui révèle les modalités de catégorisation entre humains et non-humains. Vos travaux trouvent un prolongement en faisant référence référence dans l'écopolitique, en particulier en proposant d'élargir la politique aux non-humains, par exemple en attribuant une personnalité juridique. Avec Alessandro Pignocchi, vous avez publié « Ethnographie des mondes à venir » en 2022. Vous y réaffirmez la dimension politique de vos travaux et votre engagement. Vous avez par ailleurs fait l'expérience de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Plus récemment, vous avez pris position avec bien d'autres contre l'appropriation de l'eau dans l'ouest de la France. La tournure extrêmement répressive à Sainte-Soline et depuis à l'encontre des soulèvements de la Terre nous ébranle et nous interroge sur la capacité de notre société, face à l'urgence qu'elle ne discute globalement plus, à lâcher la moindre parcelle de contrôle pour s'engager vers de nouveaux équilibres. Vous nous proposez ce soir de croiser vos travaux anthropologiques avec les luttes territoriales pour dessiner les perspectives des profondes transformations nécessaires face à la catastrophe écologique en reconsidérant le rapport d'appropriation des humains sur les non-humains. Pardon. Après avoir partagé une journée dense, commencée à bord de la Rabouilleuse et riche d'échanges sur les perspectives couvrent le retournement de nos propres relations aux non-humains, je vous cède la parole en vous remerciant encore de conclure cette journée par vos réflexions cosmopolitiques.
Messieurs les élus, monsieur le président de l'université, monsieur le président de la Maison des sciences de l'homme Val-de-Loire. Chers collègues et tous ceux qui, depuis le début du Parlement de Loire, il y a quelques années, s'activent à essayer de considérer d'une façon différente un milieu de vie aussi important que l'est la Loire, pour lui donner une capacité ou une puissance d'agir qu'on ne concède pas très souvent au milieu de vie. Il y a quelques années, on a publié une conférence de Claude Lévi-Strauss qu'il avait donnée, je crois, dans les années... je crois que c'était en 1938. Il était revenu brièvement du Brésil à Paris et il avait été invité par la CGT à prononcer une conférence. Il était à l'époque encore, je crois, un intellectuel marxiste. Il n'avait pas opéré sa transition vers le structuralisme, qui s'est passé un peu plus tard. Il avait été, certains d'entre vous le savent, un intellectuel distingué de la SFIO, même un espoir pour la reformulation, disons, conceptuelle du programme politique de la SFIO, qu'il avait abandonné pour partir au Brésil. Mais néanmoins, il avait encore des intérêts politiques qui semblent contraster avec l'image qu'il a donnée plus tard d'être quelqu'un de plus conservateur qu'il était à cette époque, parce que cette conférence avait un titre et un propos qui peut sembler curieux. Ça s'appelait « L'ethnologie comme pensée révolutionnaire ». Et pourquoi est-ce que c'est une pensée révolutionnaire ? C'est tout simplement pour une raison que tous les ethnologues connaissent, c'est que le fait d'avoir été observé loin de chez soi des institutions très différentes de celles qui vous sont familières vous incite, lorsque vous revenez chez vous, à regarder vos propres institutions avec un regard éloigné et avec les yeux dessillés en quelque sorte par une immersion dans d'autres manières de vivre, d'autres manières d'échanger, d'autres manières de faire et de penser. Et ce contraste, je crois, qui est caractéristique de toute expérience ethnographique, j'en ai fait l'expérience moi-même. Lorsque je suis parti sur le terrain, comme on dit, au milieu des années 70, en Haute-Amazonie, parce que je m'intéressais à l'époque à quelque chose qui pour moi était énigmatique, à savoir le contraste qui existait entre deux fils conducteurs, deux leitmotifs des écrits sur les Amérindiens des basses terres d'Amérique du Sud. L'un de ces fils conducteurs, et qu'on trouve dès les premières années de la conquête, dès les premiers chroniqueurs qui débarquent sur le littoral du Brésil, dont des Français, comme Jean de Léry ou Dominique Thevet, à savoir que les Amérindiens des Basses-Terres semblent n'avoir aucune institution. En tout cas, ils n'ont pas de vie sociale, ils n'ont pas de société. Et cette absence d'institution plongeait les observateurs dans l'étonnement, parce qu'ils avaient par ailleurs connaissance des populations des hautes terres des Andes ou du Mexique, où l'on pouvait reconnaître le genre d'institution qui existait en Europe, à savoir un clergé, une administration, des temples, des souverains, des armées, un système administratif, etc. Or, rien de tel n'était visible chez les Amérindiens des Basses-Terres, et ce qui était résumé dans une expression assez classique, à savoir ce sont des gens sans foi, sans loi, sans roi, sans religion, sans système juridique, sans État. Et ceci, pourquoi ? Tout simplement parce que les chefferies, lorsqu'elles existaient, étaient peu apparentes, avec des contre-pouvoirs qui faisaient que l'exercice de l'autorité semblait dilué. D'une part, que beaucoup de ces populations vivaient en habitat dispersé et non pas en village, donc il n'y avait pas de centralité administrative, que beaucoup de ces populations se faisaient la guerre entre elles, y compris en leur sein. Et donc cette désorganisation générale suscitait la perplexité. Deuxième fil directeur, c'était un fil directeur aussi que l'on retrouve sous la plume à la fois des gens qui débarquaient, des Européens qui débarquaient sur le littoral du Brésil, mais aussi de ceux qui descendaient vers l'Amazonie à partir des Andes de l'autre côté, donc des colonisateurs ibériques. C'était que ces gens-là ne sont en quelque sorte immergés dans la nature parce qu'ils ne travaillent pas, ils ne se contentent de vivre des fruits qu'une nature généreuse leur dispense. Ce fil directeur avait deux voies différentes qui sont restées dans la tradition européenne. D'une part, ce qu'on pourrait appeler une légende dorée, qui est illustrée par exemple Rousseau ou par Montaigne bien auparavant, c'est-à-dire l'idée que les Amérindiens, au fond, vivent une vie heureuse. Ce sont des philosophes nus dans une sorte d'Éden où le travail n'existe pas. Et puis une légende noire, illustrée par Voltaire, par exemple, selon laquelle les Amérindiens, au fond, ne se distinguent pas de la nature parce qu'ils sont quasi animaux. Ce sont des brutes sanguinaires qui se mangent les uns les autres et qui ne peuvent manifester aucune des aménités de la civilisation. Et ces deux fils directeurs se sont poursuivis assez tard dans mon enfance et dans ma jeunesse. C'est la légende noire qui dominait, c'est-à-dire c'était l'Amazonie, territoire dangereux, peuplé de cannibales et de bêtes féroces. Cette vision a basculé, notamment grâce au travail des ethnologues, lorsqu'ils ont montré que les Amérindiens étaient savants cultivateurs, qu'ils connaissaient bien la forêt, etc., et que, par conséquent, c'était des savants qui vivaient dans une forme de démocratie générale qui était digne d'éloge. Ce basculement, il a eu lieu dans les années 70. Donc ce double point de vue posait une question qui pour moi était intéressante, ou me permettait de formuler une hypothèse. Je me disais, si ce que ces observateurs n'ont cessé de répéter, et après tout, il n'y a pas de raison de complètement discréditer les observateurs. Il devait y avoir quelque chose derrière ces observations si constantes, même s'ils se répétaient souvent les uns les autres. Et ce qu'il y avait derrière, c'était cette idée, peut-être que si la vie sociale telle que nous la concevons, nous, n'était pas discernable chez les Amérindiens des basses terres, c'était qu'ils avaient donné à la nature tous les aspects, en quelque sorte, de la vie sociale, et que donc leur société englobait un espace plus large que les seuls humains pour y faire figurer les non-humains. Je suis parti avec cette hypothèse et que j'avais formulée sous la forme comment les Achuars, pourquoi les Achuars, parce que c'était une population à la frontière de l'Équateur et du Pérou, qui était la dernière population de langue jivaro qui n'avait pas été étudiée par les ethnologues et qui avait accepté peu de temps auparavant les premiers contacts pacifiques. Et donc j'étais assuré de trouver là des formes de relations avec la nature qui n'auraient pas été trop adultérées par le contact avec l'économie de plantation, avec le capitalisme marchand, etc. Il ne s'agissait pas pour moi d'aller chercher une société originelle qui aurait été conservée dans toute sa pureté, mais des conditions de vie qui me permettait de répondre à la question que je me posais. Quel type de rapport ces gens entretiennent-ils avec la nature? Comment font-ils pour socialiser la nature? Et au fil des mois et des années, je suis parti avec ma compagne, ethnologue elle aussi. Enfin, nous étions apprentis ethnologues l'un et l'autre. Et à mesure que nous commencions à comprendre la langue que parlent les Atchouars, nous nous sommes aperçus que mon projet intellectuel était en fait mal formulé. Il était mal formulé pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme nous nous en sommes aperçus, comme des collègues l'ont montré à peu près à la même époque dans d'autres régions d'Amazonie, les techniques que les Atchouars emploient ont pour effet de profondément transformer la forêt. Mais c'est très peu visible. Pourquoi ? Partout en Amazonie et dans d'autres régions de la ceinture intertropicale, on pratique l'horticulture itinérante sur brûlis. Ça veut dire que ça consiste à brûler, à couper d'abord un lopin de forêt, à brûler la végétation et à planter dans la litière de cendres des plantes qui ont été domestiquées en Amazonie il y a 8000 ans, au moins, comme le manioc, la patate douce, les arachides, etc. Mais aussi à planter ou à transplanter des plantes sylvestres dont les fruits sont consommés, essentiellement des arbres fruitiers, des palmiers. Or, lorsque les jardins sont abandonnés, ils sont abandonnés au bout de 5 ou 6 ans en fonction de la fertilité des sols, la forêt de recrues va coloniser le jardin et les plantes domestiquées, donc, qui sont des clones en général, hein, comme le manioc, vont être détruits par la colonisation des espèces sylvestres, tandis que les espèces sylvestres transplantées vont prospérer. Et si vous imaginez ce processus se reproduisant sur un grand nombre de générations, sur plusieurs siècles, plusieurs millénaires, ça veut dire que la composition floristique de la forêt est transformée. Autrement dit, ce que faisaient les Atchouars, comme ce que font la plupart des espèces vivantes, c'est de se créer un écosystème qu'ils transmettent à leurs descendants. La composition floristique de l'Amazonie fait de celle-ci une forêt anthropogénique. Ce n'est pas une forêt vierge, c'est une forêt qui a été profondément transformée au fil des millénaires. Et donc on ne peut pas imaginer une société qui serait en quelque sorte parachutée à l'intérieur d'une forêt comme si celle-ci n'avait jamais été transformée, pour envisager, au fond, les rapports entre la nature et la société, d'une part et d'autre part. Ce que les Atchouars faisaient, encore une fois, c'était, comme les autres populations amazoniennes, c'était d'entretenir de façon non délibérée, non consciente d'ailleurs, une sorte de grand jardin forestier à côté du jardin des jardins qu'ils cultivaient. La deuxième raison pour laquelle il était difficile d'envisager une séparation complète entre une société nettement séparée de la nature, c'est que les Atchouars, comme on s'en est aperçu encore une fois quand on a commencé à comprendre la langue, entretiennent des rapports de personne à personne avec la plupart des plantes et des animaux et des esprits. Mais les esprits, il y a des races d'esprits autonomes, mais la plupart des esprits, en fait, sont des esprits animaux. Et comment est-ce que ces rapports se manifestent? Essentiellement à travers les rêves, c'est-à-dire que les plantes et les animaux viennent visiter les Atchouars sous forme humaine pour entretenir avec eux des conversations qui les concerne. Par exemple, la première fois que on a pris conscience de l'existence de ce genre de rêves, En général, les rêves sont discutés très tôt le matin, avant le lever du jour, peu après le réveil, parce que l'interprétation des rêves joue un rôle crucial dans l'organisation du programme de la journée. Et donc, participer tous les matins à l'interprétation des rêves était une bonne façon de voir les informations que les Atchouars tiraient de ces expériences oniriques. Et donc, la première fois, c'est une femme qui nous racontait qu'elle avait été visitée par un plant de manioc sous la forme d'une jeune fille qui se plaignait d'avoir été empoisonnée par elle, par sa maîtresse humaine. Et pourquoi ? Parce qu'elle avait été plantée près d'une plante piscicide, c'est-à-dire une plante dont on se sert pour une technique qui est employée classique dans la région qu'on appelle la pêche à la livrée et qui consiste à utiliser le suc d'une plante pour modifier la tension superficielle de l'eau et les priver d'oxygène. Mais c'est une plante toxique et cette jeune fille manioc se plaignait donc à sa maîtresse d'avoir été plantée trop près de cette plante toxique et donc l'accusait d'avoir voulu l'empoisonner. Ce genre de dialogue qui se répète nuit après nuit entre des humains et des non-humains, c'est un dialogue entre personnes, ai-je dit. Pourquoi ? Parce qu'il y a un terme en Atchouar qui est « eins » et qui désigne l'ensemble des êtres qui ont une intériorité, qui ont une âme, qui ont une subjectivité, avec qui on peut communiquer. Et donc, qui est la définition que nous donnons en Europe aux humains, mais qui, dans le contexte présent, s'étendait bien au-delà des humains, puisqu'elle incluait la plupart des plantes et des animaux. Par ailleurs, les Atchouars avaient développé un système de communication très caractéristique, mais qui était compliqué à identifier au départ, parce que ce sont des incantations magiques qui sont chantées mentalement. Donc on ne va pas savoir quand les gens les chantent. Et lorsque nous avons découvert qu'ils se servaient de ces incantations magiques, qui sont vues comme des chants qui sont adressés par l'âme, l'intériorité, la subjectivité d'un humain vis-à-vis d'un non-humain pour influer sur son comportement, ou aussi ça peut être employé par un humain pour influer sur le comportement d'un autre humain. Et ces chants qui sont en très grand nombre, nous avons commencé à les enregistrer, et à travers ces chants, c'est dessiné les rapports qui existaient entre les Atchouars et les plantes et les animaux. Rapports de négociation, de coercition parfois, d'échange, et de sorte que, lorsque, au retour du terrain, j'ai rédigé ma thèse sous la direction de Claude Lévi-Strauss, je me suis dit comment présenter tout ça, et j'ai donc essayé de combiner au fond les analyses techniques, des systèmes techniques que j'avais menés, avec l'analyse de la façon dont les Atchouars se figuraient le rapport avec les non-humains. Et je concluais de cela que l'opposition entre nature et société n'avait guère de sens dans cette culture, puisque, et c'est pour ça que j'ai appelé ma thèse la nature domestique, c'est-à-dire la nature, c'était au fond une sorte d'analogue du monde de la maison, pour ça que j'employais le terme domestique, le monde de la maison où se donnait à voir les rapports sociaux entre les humains, rapports sociaux qui étaient de même nature que ceux que les humains entretenaient avec les non-humains, en particulier les femmes considéraient les plantes cultivées comme des enfants, donc comme des consanguins, tandis que les hommes considéraient le gibier et les maîtres du gibier, c'est-à-dire une race d'esprit d'un certain type qui contrôle les destinées du gibier, comme des beaux-pères. Donc, afin, relation par alliance d'un côté, consanguin de l'autre, étaient les deux catégories principales qui structuraient la vie sociale des Atchouars. Et donc, dans un premier temps, je me suis dit, voilà, c'est un système dans lequel les catégories au moyen desquelles on pense la vie sociale sont employées pour penser les rapports avec les non-humains. En même temps, j'ai eu à ce moment-là la bonne fortune d'être élu maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales. J'ai commencé un séminaire de recherche et je me suis fixé comme projet de comprendre les différentes formes de continuité et de discontinuité entre humains et non-humains qu'on pouvait observer à la surface de la planète, en particulier dans un premier temps en Amérique du Sud, dans la mesure où les outils intellectuels que j'avais amenés avec moi, à savoir la distinction entre nature et société, l'idée même de nature ou l'idée même de société, je reviendrai là-dessus, à l'évidence n'était pas adéquat pour décrire la situation que j'observais. Et donc, dans le cadre de ce séminaire de recherche, j'ai commencé à faire ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est-à-dire à lire la littérature ethnographique d'abord sur l'Amazonie, où je me suis aperçu que la situation que j'avais rencontrée était tout à fait classique, et en particulier le fait que les animaux chassés étaient perçus comme des parents par alliance. Et puis, en me déplaçant ethnographiquement par la pensée ou par les livres et les articles vers le nord, c'est-à-dire vers le nord de l'Amérique du Nord, je suis aperçu qu'on retrouvait les mêmes choses et qu'on retrouvait aussi les mêmes choses en passant le détroit de Bering en Sibérie et puis en descendant en Asie du Sud-Est, dans certaines régions d'Asie du Sud-Est en tout cas, et aussi dans certaines régions de Mélanésie. Et j'ai décidé d'appeler cela animisme, c'est-à-dire en utilisant un terme qui était tombé un peu en discrédit parce qu'il était utilisé pour définir par défaut tous les gens qui n'étaient pas, n'appartenaient pas aux religions du livre ou qui n'étaient pas bouddhistes. Hein. Quand on lisait les journaux, on disait dans tel endroit il y a 23% d'animistes et les autres sont chrétiens ou musulmans. C'était évidemment pas du tout dans ce sens-là que je l'entendais, mais dans un sens un peu différent, qui est l'idée que des gens peuvent imputer une intériorité à des non-humains de même nature que celle dont les humains sont dotés, qui permet de discuter, communiquer avec eux. À quoi se combinait un autre trait caractéristique de l'animisme, à savoir le fait que chaque forme de vie, parce que c'est quelque chose qui va au-delà de l'espèce, chaque forme de vie est, a des dispositions physiques qui lui permettent d'habiter un monde qui, d'une certaine façon, est le prolongement de ses organes et de ses capacités, c'est-à-dire de ses moyens de locomotion, de ses formes d'alimentation et des rapports qu'elle entretient, cette forme de vie, avec d'autres formes de vie local. Ce qui est quelque chose de parfaitement logique, puisque le grand éthologue Jacob von Uexküll a développé une théorie éthologique qui est fondée exactement sur ces principes, c'est-à-dire à savoir que chaque espèce, au fond, est branchée, du fait de ses dispositions physiques, sur un petit secteur du monde, et que ce monde, au fond, constitue une totalité pour cette espèce. Il y a un exemple classique qu'il emploie, c'est celui de la tique, qui a été repris par des philosophes, en particulier par Gilles Deleuze, pour expliquer cette connexion qu'il y a entre les dispositions physiques d'un côté et les façons de faire monde de l'autre côté. Or, cette conception s'étendait d'ailleurs bien au-delà des formes de vie animales ou végétales. Elle s'étendait vers les humains. Chaque tribu, si vous voulez, ayant des caractéristiques vues par les Atchouars, on parle là bien sûr des tribus voisines, comme étant au fond comme autant de caractéristiques physiques, c'est-à-dire que les peintures corporelles, les formes d'habitat, les armes, les parures, la langue même, étaient vues un peu à l'instar de dispositions physiques comme celles dont les animaux étaient dotés. Donc l'idée d'humanité en général n'avait aucun sens dans cette civilisation. Ce qui existait, c'était ce qu'on pourrait appeler des tribus-espèces, c'est-à-dire des voisins qui, du fait de certaines de leurs caractéristiques vues d'une certaine façon comme des caractéristiques physiques, menaient une vie distinctive et distincte de celle des Atchouars. Donc le monde pour les Atchouars était composé de tribus-espèces de diverses sortes, de diverses apparences, et je me suis aperçu que cette façon de voir les choses était exactement l'inverse de celle que j'avais amenée avec moi dans ma musette d'ethnologue et que j'avais acquise à la fois dans ma formation générale et dans ma formation philosophique, puisque j'étais philosophe de formation, à savoir l'idée que les humains sont une espèce exceptionnelle du point de vue de leur qualité morale et cognitive, d'un côté, donc ils ont une intériorité alors que les autres espèces animales en particulier n'en ont pas, mais qu'ils sont soumis aux lois de la nature parce que du point de vue physique, ils sont comme tous les autres éléments organisés du monde. Et donc on avait là un système d'opposition qui était fondé sur le contraste entre intériorité et physicalité, mais où les discontinuités et les continuités ne passaient pas au même endroit. Pour les Atchouars, pour les animistes en général, il y avait une continuité des intériorités entre tous les êtres et une discontinuité des dispositions physiques. Chaque être avait sa propre nature, si je puis dire. Tandis que pour nous, naturaliste, c'est l'expression que j'ai choisie à ce moment-là, c'était le contraire. Les humains étaient exceptionnels du point de vue de l'intériorité, mais en revanche, ils avaient des dispositions physiques partagées avec le reste des éléments organisés du monde. Cette opposition, ce contraste, m'a conduit à poursuivre l'enquête, et je l'ai poursuivi comme je l'ai fait. Comme je le faisais auparavant, c'est-à-dire en examinant des textes, notamment vers un continent auquel je m'étais peu intéressé auparavant, qui était l'Australie aborigène, et où je me suis aperçu que le totémisme ne répondait à aucune des deux formules que je venais que je viens d'évoquer, c'est-à-dire ni l'animisme ni le naturalisme, a été fondé sur l'idée que des humains et des non-humains, à l'intérieur d'un groupe, partagent des qualités physiques et morales qui leur ont été transmises initialement par un prototype qu'on appelle totem traditionnellement dans la littérature. Cette transmission s'opère génération après génération, par des processus dans lesquels je ne vais pas rentrer, et elle aboutit donc au fait que des humains, des non-humains partagent des dispositions physiques, mais définies relativement abstraitement, c'est-à-dire plutôt corpulents, plutôt efflanqués, plutôt rapides, plutôt lents, etc., et des dispositions morales, plutôt bienveillants, plutôt querelleurs, etc., et qui sont donc partagés par des humains et par des non-humains, et qui diffèrent de bloc à bloc, c'est-à-dire chaque groupe totémique partage des qualités morales et physiques distinctes. Il restait une quatrième formule, qui était en fait quelque chose qui nous avait... quand je dis nous, c'est nous Européens, c'est toujours précisé cela... nous avait caractérisé pendant longtemps, jusqu'à la Renaissance en fait, et qui était fondée sur l'idée que le monde est composé d'une infinité, d'une hétérogénéité de composantes, d'éléments, et que dans un monde aussi disparate, il est nécessaire de pouvoir trouver des connexions entre ces éléments hétérogènes. Et ces connexions, on les opère par l'intermédiaire de réseaux de correspondance. Un bon exemple de cela, c'est les correspondances entre macrocosme et microcosme, qui sont caractéristiques de la pensée médiévale, de l'Antiquité, jusqu'à la Renaissance, et qui subsistent d'une certaine façon comme des survivances, encore jusqu'à présent, dans, par exemple, l'habitude de consulter un horoscope. Donc l'idée, c'est qu'il y a entre le cosmos en général et le corps humain vu comme un cosmos en miniature, des formes de relations, de résonance, de correspondance, etc. Ces correspondances-là, elles existent dans certaines cultures, pas dans d'autres. Il n'y a pas de correspondance entre macrocosme et microcosme dans les ensembles, dans l'archipel animiste. Chez nous, dans le naturalisme, il n'existe encore une fois qu'à titre de survivance. Il n'y en a pas dans le totémisme. En revanche, c'est un trait central de civilisation que j'ai appelé analogiste. Pourquoi ? Parce que le raisonnement analogique, qui est universel, est employé de façon préférentielle pour élaborer ces chaînes de correspondance entre les différents éléments du cosmos. Donc un modèle de façon, ce ne sont pas des visions du monde, ce sont des façons de faire monde, c'est-à-dire ce sont, j'emploie un néologisme pour, en français pour désigner ça, qui est le néologisme de mondiation, c'est-à-dire faire monde. Qu'est-ce que ça veut dire faire monde ? Ça veut dire détecter dans le monde, et aussi dans son fort intérieur d'ailleurs, des éléments qui vous paraissent pertinents et au moyen desquels construire le mobilier habituel qui vous entoure. Quels sont les êtres, au fond, avec lesquels on entre régulièrement en relation ? Quels sont ceux que l'on ignore ? Un physicien de l'accélérateur de particules du CERN, son monde, son mobilier du monde, il est composé de particules élémentaires qu'il va détecter grâce à des machines complexes. Ces particules vont laisser des traces, des bosons de Higgs, des muons, des choses comme ça, que personne n'a jamais vues, mais on leur fait confiance, ils nous disent qu'ils existent parce que des traces ont été laissées par ces particules élémentaires sur les appareils de détection. Les hachoirs n'ont jamais vu de muons ou de quarks, mais ils ont vu des esprits. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un appareil de détection des esprits qui est quelque chose qui est transmis, non pas par inculcation, mais par tradition, qui fait que dans certaines circonstances, on va interpréter des signes que l'on repère dans l'environnement comme étant des indices de la présence d'un esprit. Donc ces deux façons de faire monde qui ne sont pas incompatibles. Un hachoir faisant des études de physique pourra éventuellement un jour rajouter à son mobilier du monde des muons et des quarks. Un ingénieur ou un physicien du CERN passant longtemps avec les hachoirs pourra éventuellement interpréter certains signes comme dénotant la présence d'un esprit, mais traditionnellement, dans les communautés qui ont été élevées dans les mêmes circonstances, avec les mêmes processus de socialisation, le mobilier du monde est relativement fixé dès l'enfance, peut évoluer, mais reste fixé. Donc, quatre types de mobilier du monde, quatre ontologies, si vous voulez, quatre façons de faire monde. Et ces façons de faire monde m'ont paru intéressantes parce que elle comporte des façons très très différentes de concevoir ce qu'est la vie sociale, ce qu'est une société, ce qu'est le normal et le pathologique, etc. J'en ai donné un exemple tout à l'heure lorsque j'ai dit que pour les Hatchoirs, comme pour les animistes en général, une société, c'était une tribu-espèce, c'est-à-dire c'était des entités qui ont des corps dont les dispositions sont les mêmes, qui ont une intériorité, mais qui ne sont pas nécessairement des humains. Et donc la vie sociale, c'est un très grand ensemble de tribus-espèces qui négocient entre elles, s'affrontent parfois. Dans l'archipel analogiste, par exemple, les maladies et la mort sont très souvent perçues comme étant provoquées par des animaux. Pourquoi ? Parce qu'on mange les animaux et que les animaux étant des personnes, lorsqu'on les mange, et malgré tout ce que l'on fait pour éliminer la subjectivité qui est encore attachée à leur chair, on boulotte quand même de la subjectivité en même temps que l'on mange leur chair, et ça c'est très mauvais. Je pense que si on avait les mêmes idées, ça ralentirait beaucoup la consommation de viande. Il se trouve que ça n'a pas ralenti la consommation de viande de gibier dans l'archipel animiste, mais ça donnait du travail aux chamans. Et donc les chamans, leur principale mission, c'est d'aller dans les collectivités, dans les collectifs animaux, pour négocier avec les animaux la libération, en quelque sorte, des humains qui, ayant mangé de la subjectivité animale, en sont tombés malades ou s'apprêtent à en mourir. Ces conceptions-là, ce ne sont pas des représentations du monde, encore une fois. Ce sont les conséquences logiques du type de mobilier au sein duquel on est établi. Or, si on prend au sérieux, il n'y a pas de raison de ne pas le prendre au sérieux, en tout cas, comme anthropologue, moi, ça me fournit une matière à réflexion particulièrement originale et stimulante. Si on prend au sérieux ces conceptions, ça veut dire que la plupart des concepts que nous employons pour décrire notre propre mobilier du monde sont inadéquats pour décrire d'autres mobiliers du monde. Et ces concepts sont des concepts qui viennent pour l'essentiel et du droit romain en particulier, et de la philosophie des Lumières. Et donc des concepts que nous employons tous au quotidien, que les sciences sociales, que la philosophie des Lumières, que les sciences sociales ont rendu communs, comme le concept de société, comme le concept de nature, comme le concept d'histoire, comme le concept d'art, enfin, on pourrait continuer comme ça pendant longtemps, sont des concepts que nous avons, que nous, encore une fois, nous, Européens, avons forgé dans des circonstances très particulières pour objectiver notre trajectoire historique de façon réflexive. Et ces concepts ont été légués par l'intermédiaire des sciences sociales aux anthropologues qui les ont utilisés sans beaucoup de discussions pour décrire des réalités très différentes. Mais les historiens ne font pas autrement. Donc parler de société à propos des Hatchoirs n'a guère de sens. Parler de société à propos de régime analogiste, par exemple, n'a guère de sens non plus. Pourquoi ? Parce que, c'est un malaise qu'on sent chez les historiens lorsqu'ils parlent du Moyen-Âge ou de l'Antiquité aussi, ou quand ils parlent des Incas, par exemple, des Aztèques ou de l'Empire chinois, ce sont des totalités qu'on a l'habitude d'appeler sociocosmiques, c'est-à-dire dans lesquelles il n'y a pas de distinction principielle, a priori, entre humains et non-humains, qui sont inclus à l'intérieur d'un grand ensemble, qui est organisé en général à l'intérieur d'un système hiérarchique. Notre propre système hiérarchique, qui était la grande chaîne de l'être, qui fonctionnait comme un système qui permettait d'ordonner sur une échelle de valeurs des êtres depuis un être parfait qui est devenu Dieu, puisque c'est, on crédite Plotin de cette idée au départ, et qui est devenu Dieu avec le christianisme, jusqu'aux entités les plus humbles. Et cette grande chaîne articule donc la totalité des éléments du monde sous la forme d'un dispositif hiérarchique. Donc la structuration, séparer les humains au sein de cet ensemble, est une opération qui est difficile et que les historiens ou les anthropologues ne font qu'avec beaucoup de prudence. Donc dans un système comme celui-là, il n'y a pas non plus de société. Ce qui compte, c'est le collectif général que forment les humains et les non-humains et les principes de structuration de ce collectif. Je ne vais pas continuer les exemples de ce type-là, mais ça a des conséquences, encore une fois, sur la façon dont nous appréhendons des civilisations différentes des nôtres, en projetant sur eux les concepts que nous employons pour nous décrire nous-mêmes. Et ce qui est intéressant, et c'est là que j'en viens à des questions de cosmopolitique, c'est de voir comment des populations qui, au fond, échappent aux catégories que nous avons forgées, conçoivent leur organisation interne, conçoivent les rapports entre humains et non-humains en leur sein, et qu'est-ce que ça peut nous enseigner sur la situation de crise dans laquelle nous sommes, que mon ami Bruno Latour appelait le nouveau régime climatique, et qui est le produit, bien sûr, du réchauffement climatique, dans lequel les humains sont devenus une force dite naturelle, agissant sur le système de la Terre. Nous sommes très mal préparés pour concevoir un tel dispositif, pour concevoir ce qu'on a appelé l'anthropocène et que je préfère appeler la capitalocène, c'est-à-dire l'idée que nous sommes entrés dans une nouvelle ère géologique dans laquelle les repères habituels sont profondément transformés. Nous sommes mal équipés du fait précisément de la persistance, de la séparation que nous opérons entre les humains d'un côté, la société, la culture, et puis les non-humains de l'autre, la nature, parce que cette séparation rend difficilement concevable la situation dans laquelle nous sommes entrés et vis-à-vis de laquelle je suis un peu pessimiste parce que nous essayons d'intervenir, mais le mouvement n'est pas encore généralisé, disons. Alors, je vais vous donner un exemple de la façon dont, dans d'autres contextes ontologiques, dans d'autres façons de faire monde, on peut intervenir dans des situations analogues. Il y a quelques années, à Cusco, donc dans les Andes, une grande manifestation s'est tenue, qui avait pour objectif de protester contre une mine, un projet de mine qui était concédé à une grande entreprise nord-américaine. L'extraction minière est quelque chose de très ancien dans les Andes, qui suppose que l'on va forer des galeries, et que l'on va négocier avec les esprits maîtres du minerai, que l'on va compenser pour le minerai qu'on extrait et qui est vu, comme dans tous les systèmes analogistes d'ailleurs, comme étant quelque chose de vivant qui se reproduit, donc dont il faut entretenir la vie. Alors que les exploitations minières par décapage à ciel ouvert, telles qu'elles se répandent un peu partout dans le monde avec l'industrie extractive, sont fondées au contraire sur la destruction complète d'un système, puisqu'on décape couche par couche jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de ce qui existait auparavant, notamment les montagnes, les bassins versants, etc. Donc c'est une forme de destruction écologique dramatique, mais au-delà de la destruction écologique dont les conséquences sont visibles, c'est-à-dire la pollution des eaux, c'est-à-dire tout ce que vous, je ne vais pas faire rentrer dans le détail, vous imaginez très bien, il y a quelque chose de plus, et c'est contre ce quelque chose de plus que les Amérindiens de la région de Cusco protestaient, c'est contre la destruction d'un membre du collectif. La mine en projet devait détruire une montagne de la chaîne de l'Ausangate, qui est une chaîne dont les montagnes sont... Alors on dit ce sont des divinités. Ce sont des êtres qui sont perçus comme ayant une puissance d'agir et qui sont des membres du collectif. Et vous remarquez que j'emploie ce terme de collectif plutôt que de société, parce qu'il n'y a plus guère de sens à parler de société quand on va inclure à l'intérieur de cela des troupeaux, des pâturages, des volcans, des lacs, des rivières, etc. Dans le cadre de la protestation, enfin de la manifestation de Cusco que j'évoque, les humains se sentaient dans une situation de solidarité avec un membre du collectif attaqué, et il devait donc manifester cette solidarité en luttant contre le projet de la mine. Bien sûr, il s'agit en termes écologiques classiques, et certains manifestants brandissaient des calicots non à la pollution, non à la mine, etc. Mais ça allait bien au-delà, c'est-à-dire au fond, ça reflétait. Cette manifestation reflétait une façon de faire monde complètement différente de la nôtre et dans laquelle un membre du collectif, et on pourrait penser à la Loire par exemple, attaqué par un agent extérieur, doit être défendu comme tous les autres éléments du collectif. Donc ça, c'est une façon de faire monde et de s'adapter, ou en tout cas de lutter contre des formes de domination et d'exploitation qui est tout à fait singulière, qu'on peut interpréter à première vue comme étant des manifestations écologiques, et d'ailleurs que les organisations non gouvernementales écologistes interprètent comme cela, mais qui en réalité reposent sur un socle ontologique beaucoup plus, très différent, et qu'il faut apprendre à reconnaître comme tel. Je vais donner un autre exemple, encore en Amérique du Sud, mais dans un système, dans une façon de faire monde qui est tout à fait différente. Il y a au nord de chez les Achuar, en Amazonie équatorienne, une petite communauté qui s'appelle Sarayaku, qui est une communauté de gens qui parlent quechua, parce que dans cette région de l'Amazonie centrale de l'Équateur, des missionnaires dominicains ont... ont créé des réductions, c'était des zones de regroupement qui regroupaient des populations amérindiennes qui quelquefois parlaient des langues différentes pour les protéger des raids esclavagistes des colons espagnols. Et ces populations ont perdu leur langue et se sont mises à parler quechua comme les missionnaires qui utilisaient cette langue d'évangélisation. Donc cette communauté est venue à la COP21 à Paris, au Bourget en tout cas, pour demander, faire une pétition internationale demandant à ce qu'on crée une classe nouvelle de territoires protégés que leur territoire soit légalement protégé. Et les termes qu'ils ont employés pour justifier cette demande de protection, ce n'était pas du tout une affaire d'autochtonie, par exemple, parce que dans cette région de l'Amazonie, les gens bougent beaucoup et que par conséquent, il y avait guère de sens à dire nos ancêtres sont là depuis de toute éternité, parce que c'était à l'évidence faux, on pouvait montrer facilement que ce n'était pas le cas. Il y avait aussi un désir de protection contre des menaces de prospection pétrolière, puisqu'il y avait des entreprises pétrolières qui rôdaient à la périphérie nord de cette communauté. Mais c'est pas l'argument qu'ils ont employé. L'argument qu'ils ont employé, c'est de dire notre territoire abrite des relations matérielles et spirituelles entre humains et non-humains extrêmement originales. Et c'est ces relations qu'il faut protéger. Et pour protéger les relations, il faut protéger le territoire. Donc ici, cette façon de faire est une réponse, j'allais dire, animiste à la conception d'un territoire comme d'un lieu, précisément, où se déploient des rapports complexes entre humains et non-humains, et qui participent d'une certaine façon non seulement à la qualité de la vie des humains et des non-humains qui l'occupent, mais aussi au fond à l'enrichissement de la qualité du monde. Et donc c'est une demande qui vise à se protéger, mais qui vise bien au-delà de se protéger à ce que au fond, les gens de la commune de Salayaku constituent un modèle de rapport entre des humains et des non-humains. Un peu partout dans le monde, des populations autochtones mènent des mouvements de révolte, de protestation contre la spoliation territoriale. Spoliation territoriale qui n'a pas cessé depuis le début de l'expansion coloniale. Il faut rappeler quand même que l'accaparement des communs, dont on a encore de nombreux exemples en France encore à l'heure actuelle, puisqu'on a évoqué tout à l'heure la situation avec les méga-bassines, c'est-à-dire la création de réserves d'eau d'irrigation par pompage dans la nappe phréatique pour une minorité d'exploitants au détriment du reste des habitants de la région, donc des mouvements de privatisation des communs qui ont commencé il y a longtemps en Europe avec le mouvement des enclosures, qui a été au fond à la racine du capitalisme lorsque Marx parle de l'accumulation primitive du capital. Elle est le produit des profits que les propriétaires qui ont enclos leurs terres et ont accaparé des biens communs de communes libres et qu'ils ont privés par ce moyen de leurs moyens d'existence, ont transformé d'abord la terre en une valeur marchande et ensuite contraint des gens dépossédés de leurs moyens d'existence à vendre leur force de travail sur un marché. Donc les deux formes de mercantilisation qui sont à la source du capitalisme, le marché du travail et le marché de la terre, sont nées de ce mouvement d'accaparement des communs qui s'est poursuivi à une échelle alors gigantesque, évidemment hors d'Europe, dans le monde colonial et notamment dans le monde colonial américain, qui a permis à des pays comme le Royaume-Uni, dont les ressources en ressources dites naturelles, hein, en forêt, en pâture, en terre cultivable, étaient relativement restreintes, ont permis au Royaume-Uni un processus d'accumulation qui a été à la base de la révolution industrielle. Donc ces phénomènes d'accaparement des communs qui ont commencé il y a longtemps et qui sont encore à l'heure actuelle visibles dans une grande partie du monde, non seulement en Europe, mais aussi parmi des populations autochtones qui sont soumises à la convoitise ce qu'on appelait jadis le grand capital, les firmes extractives, etc., se poursuit. Et les formes de réaction à cet accaparement sont intéressantes, comme je viens de le dire, puisque j'en ai évoqué deux, parce qu'elles suggèrent des façons différentes de concevoir les rapports entre humains et non-humains, et donc les formes de réaction que l'on peut opposer à ces mouvements d'accaparement. J'en vois d'autres. On a évoqué tout à l'heure, dans le livre que j'ai écrit avec Alessandro Pignocchi, l'importance que nous accordons l'un et l'autre à des zones tout à fait originales que sont les zones à défendre, notamment Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire des lieux où se crée à la fois une identification profonde des habitants aux non-humains dont ils partagent l'existence, d'une part, et des projets de vie collective qui s'efforcent d'échapper aux contraintes de la mercantilisation générale, du consumérisme, de la transformation de la plupart des non-humains qui nous entourent en ressources marchandes, et qui donc, de ce point de vue-là, offrent une sorte de tremplin de stimulation intellectuelle et politique à des transformations de nos modes de vie. C'est pour ça que je suis attentif tout à la fois aux formes de lutte contre la spoliation territoriale et aux conceptualisations politiques, cosmopolitiques justement. Qu'est-ce que c'est que la cosmopolitique ? C'est pas au sens de Kant. Pour Kant, c'était la situation de tous les humains sur la Terre. Donc c'était une manifestation admirable d'ailleurs de la philosophie des Lumières, mais qui était complètement anthropocentrée. Je prends cosmopolitique dans un sens beaucoup plus étymologique, c'est-à-dire comme la politique du cosmos, c'est-à-dire la politique qu'il s'agit de mener pour que tous les éléments du monde soient pris en considération dans la façon dont nous représentons nous donnons voix à des éléments humains et non humains à la surface de la Terre de façon à la rendre moins inhabitable non seulement de ce qu'elle est à l'heure actuelle, mais dont on peut penser qu'elle va continuer à l'être. Cosmopolitique, ça suppose évidemment de changer les institutions politiques, et je vais terminer là-dessus. L'une des choses que je trouve fascinante dans le Parlement de Loire, comme je trouve fascinantes les autres expérimentations du même ordre qui se sont déroulées dans d'autres régions du monde et qui consistent à donner la personnalité juridique à des milieux de vie, c'est que précisément ça nous permet de sortir de l'anthropocentrisme des institutions politiques et de l'impasse dans laquelle les concepts qui ont été forgés par la philosophie de Lumière nous ont menés pour concevoir cette situation intermédiaire dans laquelle nous trouvons, dans laquelle il s'agit de défendre des solidarités entre humains et non-humains de façon à promouvoir l'habitabilité de la Terre. C'est pourquoi ? Parce que dans les cas que l'on connaît et qui ont déjà une traduction juridique, je pense à la rivière Whanganui en Nouvelle-Zélande, je pense au Rio Atrato en Colombie, je pense à la Magpie, qui est aussi une rivière, ce sont presque toujours des bassins versants au Québec. Et même, c'est une expérience assez récente, au Mar Menor, qui est un système de lagunes en Andalousie. Au fond, accorder une personnalité juridique à un milieu de vie est une opération qui est très différente de accorder une personnalité juridique à la nature. Je connais un peu la question derrière cette proclamation, puisque l'Équateur est là où j'ai longtemps vécu et le premier pays qui a mis dans sa constitution qu'il existait des droits intrinsèques de la nature. C'est une disposition qui est sans doute excitante moralement, mais qui a très peu de conséquences concrètes, parce que la nature est une abstraction, et donc donner des droits à une abstraction ne fait pas beaucoup avancer les choses. Et d'ailleurs, le gouvernement de Correa, qui a été à l'origine de cette modification constitutionnelle, s'est fait connaître pour avoir en partie vendu l'Amazonie à des concessions minières et pétrolières. Donc les effets ont été extrêmement restreints, si vous voulez. Alors que conférer des droits, non pas à la nature, à une abstraction, mais à un milieu de vie concret, en général un bassin versant dont on peut définir les caractéristiques, le périmètre, les composantes, etc. C'est quelque chose de tout à fait différent et qui a comme mérite, me semble-t-il, pour revenir à la question de l'appropriation des biens communs, qu'il transforme la conception même de l'appropriation ou du droit de propriété. Le droit de propriété ou l'appropriation, il se déploie depuis des humains, individuels ou collectifs, vers des non-humains transformés en ressources. Alors que un milieu de vie ayant la capacité de se défendre juridiquement, peut-être dans certaines circonstances, à condition que ces droits-là lui soient concédés, peut-être dans certaines circonstances conçu comme étant propriétaire de lui-même. Et étant propriétaire de lui-même, dans une situation où il peut faire valoir des droits vis-à-vis de droits concurrents, et notamment de droits concurrents d'entités qui pourraient lui porter préjudice. Et ça, c'est une révolution conceptuelle. Une révolution conceptuelle qui sera évidemment très difficile de traduire dans le droit. C'est quelque chose dont on discutait tout à l'heure à la Maison des sciences de l'homme, mais dont on peut penser que les premiers pas ont été franchis. En rajoutant quelque chose aussi, rien ne s'obtient sans lutte. Je crois que l'exemple des ZAD le montre. Et obtenir des droits, réclamer des droits pour un milieu de vie, c'est quelque chose qui peut devenir et qui a été un objectif politique. Dans les cas que l'on connaît, je pense que c'est probablement le premier, la Wanganui, ce sont les Maoris, les populations Maoris des berges de ce fleuve, qui ont lutté pour obtenir sa reconnaissance juridique. Donc ça peut être un objectif aussi politique de lutte. Et donc c'est pour ça que je suis très content de parler devant vous à l'invitation du Parlement de Loire, pour vous dire à quel point je souhaite que vous puissiez tous vous mobiliser pour non seulement réfléchir aux conditions dans lesquelles la Loire, ou en tout cas une partie de son cours, pourrait devenir une personne morale, mais aussi pour tenter de faire valoir cela auprès de la juridiction nationale. Je me tourne vers le monsieur le député. Je ne sais pas si la représentation nationale est suffisamment éclairée encore pour prendre ce genre de décision, mais tout ce qui peut permettre de pousser pour qu'on y arrive me paraît être une façon, l'une des voies pour envisager un futur moins catastrophique quant à l'habitabilité de notre planète. Merci.